Père Maroun, bonjour.
Oui, bonjour Sandra, bonjour aux auditeurs.
Alors, la dernière fois avec vous, nous avions commencé à parler de l'embryon. Aujourd'hui, on va voir du point de vue plus juridique et moral. C'est une question assez complexe.
Très complexe, très très complexe. On va essayer de faire en sorte que ça soit un peu plus clair et abordable, voilà, pour les auditeurs. Voilà, pour avoir un peu de notions quand même essentielles et importantes et fondamentales pour ce qui concerne l'embryon dans les questions de la bioéthique.
Alors, juste une petite précision d'un point de vue juridique, on va s'intéresser uniquement au droit français, parce que si, effectivement, si on s'intéresse au droit des différents pays, là, je pense qu'il nous faudrait beaucoup, beaucoup d'émissions.
Déjà, pour parler de droit français, cette émission ne suffit pas. Donc, j'ai fait un résumé, un condensé aujourd'hui. Mais le sujet mérite vraiment une étude plus approfondie. Donc, voilà, juste je donne les axes principaux, les titres principaux. Après, les gens, ils peuvent aller chercher, voilà, dans le droit, dans les articles. Donc, oui, ça serait juste le droit français, ça c'est sûr.
Alors justement, on va commencer par le statut juridique de l'embryon. Et la question qu'on peut se poser, c'est quel est ce statut? Est-ce qu'il y a vraiment un statut défini de l'embryon?
Pour répondre à cette question, en fait, il faut savoir, donc juste je rappelle pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, que dans le droit, on distingue deux catégories principales. Il y a la catégorie des sujets et la catégorie des objets. Même la catégorie des personnes ou les objets. En d'autres termes, donc le sujet ou la personne, c'est celle qui peut avoir, qui est sujet de droit. Donc j'ai droit à manger, j'ai droit à la liberté, j'ai droit à avoir une propriété. Donc, c'est toutes les personnes qui peuvent avoir un droit sur quelque chose, alors que l'objet, c'est sur lequel on a le droit, la table, je sais pas, l'entreprise. Voilà. Donc, déjà, il faut distinguer ça dans le droit. Dans le droit français, notamment, il faut pas confondre la personne humaine avec la personne juridique. Parce que la personne juridique, elle se définit par la capacité juridique, c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire des droits, hein, et à les exercer. Dans la personne juridique, il y a aussi la personne humaine en tant que telle. Moi, un sujet, vous, chacun des auditeurs peut être, enfin, ou il est une personne juridique, mais aussi des personnes morales. Hein. Par exemple, une entreprise a un droit, par exemple, voilà, de vendre tel ou tel produit. Donc, il y a ces petites notions, en fait, disons, de distinction. Pour parler de l'embryon, évidemment, la question est plus compliquée parce que tantôt il est traité comme une personne ou un sujet, tantôt il est traité comme un objet. Et c'est ça un petit peu la délicatesse de la question. Et pour le comprendre, je pense que ça serait bien qu'on puisse voir un petit peu dans chaque partie de droit où l'embryon il est où et comment il est traité. On peut parler de la Constitution, on peut parler du Code civil, on peut parler du Code pénal. Donc ce sont les trois grands axes, hein, du droit. Si on prend la Constitution française, parce que vous savez, dans le droit, le sommet du droit, c'est la Constitution. C'est la plus haute, disons, autorité dans le droit. Dans la Constitution, il est très clair qu'en France, il n'y a aucune indication sur le statut de l'embryon. Et là, juste pour dire, quand je dis embryon aujourd'hui, je vais faire en sorte que je parle de l'enfant à naître, hein, qu'il soit embryon ou fœtus, parce qu'il n'y a pas de distinction dans le droit entre les deux, hein. Donc l'embryon, c'est l'état général de l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, ou in vitro, on verra. Donc dans la Constitution, il n'y a aucune indication sur ce statut. Et ce qui est clair, la Constitution, elle laisse le législateur trancher à sa guise la protection accordée à l'enfant à naître. Ça, c'est sûr. Sur ce sujet, il y a une thèse qui a été faite il y a quelques années de maître Guylain Nicolas, qui a fait vraiment un travail remarquable sur le statut d'embryon dans la Constitution. Et la conclusion est la suivante, ce que je viens de dire. Il n'y a aucun statut dans la Constitution concernant l'embryon. Ça, c'est un premier point important. Après, dans le Code civil, les choses changent beaucoup. Parce que dans le Code civil, il y a ces deux possibilités. Soit il est personne, soit il n'est pas personne. On le traite selon les cas. Disons en premier temps, il n'est pas une personne. L'embryon n'est pas une personne. Donc, il n'est pas une personne juridique, hein. Et ceci, on peut le voir par exemple dans l'article 318, qui affirme qu'il n'y a pas d'action relative à la filiation si l'enfant n'est pas né vivant et viable. Donc, s'il n'y a pas d'action de filiation, il n'est pas une personne. Et s'il n'est pas né vivant et viable, il ne peut pas avoir aussi ce statut de filiation, donc d'être une personne. Donc, en plus, la question vivant et viable, c'est une condition essentielle dans le droit. On va voir tout à l'heure aussi, quand on va parler un petit peu de la succession, hein. Quand je dis né vivant et viable, vivant, donc c'est clair, il sort du ventre de sa mère, il est vivant. Mais viable, c'est-à-dire il a aussi cette chance ou cette possibilité d'être vivant d'une façon indépendante et sur le pronostic, hein, un pronostic général, donc que cet enfant qui est né, il va vivre. Donc si on sait qu'il n'est pas viable, il ne peut pas être, par exemple, inscrit directement dans le code civil et il ne peut pas être sujet de droit.
Alors justement, ça pose quand même question, cette notion de viabilité de l'enfant, parce que un enfant qui est considéré comme étant né, vivant et viable, mais qui meurt quelques heures après, peut avoir la personnalité juridique parce qu'il est considéré comme viable. Mais si on détermine que du fait d'une malformation qu'on a détectée lors d'une échographie, il va de toute façon mourir à la naissance, à ce moment-là, même si il meurt donc quelques heures après, comme le premier enfant qui a été déclaré viable, du fait qu'on a identifié une malformation qui fait qu'on sait qu'il va mourir à la naissance, même s'il meurt quelques heures après la naissance, cet enfant n'aura pas la personnalité juridique parce qu'il n'est pas né viable. Donc la frontière est floue. C'est-à-dire que c'est le discernement du médecin.
En fait, pour ce point, surtout pour ce point, en 1993, il y a un ajout d'un article dans le Code civil, l'article 79-1. Dans cet article, on affirme qu'on peut disposer, voilà, d'un acte de naissance. Et je cite ce qui est écrit dans l'article, lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, donc disons quelques heures après, hein. L'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. Après, l'article continue. Mais l'idée de cet article, c'est de permettre une prise en compte un petit peu de la souffrance des parents quand même et de faciliter le deuil de l'enfant parce qu'il y a beaucoup quand même de parents qui ont souffert après une perte de leur enfant juste après la naissance. Moi, ils disent quand même, c'est pas possible que mon enfant, il est né, même s'il n'est pas viable, mais il est né, je le vois, au moins que j'ai quelque chose hein, pour lui, qu'il soit déclaré comme une personne. Donc ça a été rajouté au Code civil en 1993, l'article 79-1.
Il s'agit
Donc.
d'un acte, dans ce cas-là, c'est un acte d'enfant sans vie qui est délivré.
D'un acte d'enfant sans vie qui était livré, ou d'un acte qui est né vivant, mais après qui est décédé. Voilà. Il y a les deux qui jouent en même temps. Normalement, c'est celui qui naît et qui décède après. Mais un enfant né sans vie, ça, je pense, ça revient aussi à. Ça rentre dans la jurisprudence de cet article aussi. Donc, certainement, il y a une ambiguïté. Le tout, c'est de quand même aussi combler un petit peu, combler, d'aider les parents un petit peu à sortir de cette souffrance ou à l'assumer, à la vivre d'une façon paisible. Donc, on peut le faire sous condition, comme je viens de citer hein, dans cet article. Après, vous savez, c'est pas évident. Hein. On vous dit déjà dans le droit, c'est flou. Oui, c'est flou. Non, c'est flou.
Voilà, c'est d'où la difficulté de cette question, justement, les juristes ont du mal, ont beaucoup de difficultés à trancher parce que on a commencé à parler de l'embryon lors de la dernière émission. On pourrait tenir plusieurs émissions sur le sujet, tant ça implique différents domaines et. Tout simplement parce que en tant que chrétien, pour nous, la vie commence dès la conception. Donc, c'est vrai qu'il y a cette difficulté du droit qui peut être un petit peu lent. Quelquefois,
En fait,
on reproche.
la difficulté provient pas seulement du droit en fait, en tant que tel. La difficulté, à mon avis, hein, d'après longue recherche sur ce sujet, la grande difficulté aujourd'hui, c'est une difficulté de notion. C'est-à-dire, chaque partie a sa définition, a sa vision des notions. Le nom personne, le mot personne, a une connotation différente dans le droit, a une connotation différente dans l'éthique, une connotation différente dans la médecine. Et ça fait quand même, vous savez, ça, chacun tire la corde vers lui. Et le fait de ne pas avoir une notion qui soit acceptée par tous, hein, en même temps, il y aura toujours des confusions. Ça, c'est une grande difficulté aujourd'hui. Même, regarde, quand on parle de la dignité, voilà, la semaine dernière, on parlait de la question de l'euthanasie avec cette loi de Falorni. On parle de la dignité. Mais qui définit la dignité? Chacun définit la dignité selon sa guise. En droit, il n'y a pas déjà une définition de la dignité, mais après, chacun a donc une définition différente de la dignité, alors que la dignité doit être quand même, doit être définie clairement, pour tout le monde. Voilà, c'est un jeu aussi de mots, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a aussi un médecin qui dit, dans ces questions de l'embryon, on dit, mais on profite des jeux de mots pour faire ce qu'on veut. On joue sur les mots pour faire ce qu'on veut. C'est clair. Et c'est ça la question. Dans le droit, c'est ça. Parce que dans le droit, la notion de personne n'est pas la même dans l'éthique ou en philosophie. Et alors, ça joue un rôle.
Alors justement, le fait que donc de cette absence de personnalité juridique pour les enfants morts avant la naissance ou nés vivants mais non viables, quel impact cela a? Quelles conséquences?
Quelles conséquences? Déjà, il y a une conséquence sur les parents, ça, il faut le dire. Il y a une conséquence sur le parent, déjà, une chose. Et la deuxième, une conséquence, déjà, sur toutes les questions qui sont relatives à la recherche aussi, hein, et à l'avortement. Donc tout joue après, hein. On peut légiférer, pas quoi, n'importe quoi, parce qu'on n'est pas clair là-dedans ou parce que c'est pas très bien précisé. Regardez la question de l'avortement. Avant, c'était le délai à 10 semaines. Maintenant, c'est le délai à 14 semaines. On peut même aller jusqu'à l'avortement jusqu'à 9 mois pour une détresse psychosociale. Et alors, où est cette protection de la vie? D'ailleurs, c'est une grande problématique aussi que Maître Guylaine Nicolas, dans sa thèse, a affirmé. Comment peut-on, par exemple, vous savez, dans la Constitution française, la dignité est devenue un principe constitutionnel en 97, si je ne me trompe pas. Hein? Elle dit, Maître Guylaine-Nicolas, elle dit, mais comment peut-on défendre la dignité alors qu'il n'y a pas un droit à la vie constitutionnellement? Et ça rejoint la question de l'embryon du fœtus. Mais il n'a pas droit à la vie, déjà au niveau constitutionnel, comment on peut continuer après? Il
Oui,
n'est pas protégé.
c'est justement une des contradictions. Vous disiez donc dans la Constitution, il n'y a pas de statut défini de l'embryon. Et dans le même temps, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 3, dispose du droit à la vie et indique que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Tout à
Et que
fait.
nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Tout à fait. Mais même, en fait, par rapport à cet article de droit européen, il ne faut pas oublier l'article 16 du droit civil français. Je cite, la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci. Donc là, on parle des personnes juridiques, ça c'est sûr. Mais le législateur a ajouté cette phrase et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Qui est l'être humain d'ailleurs? Là, c'est vraiment l'être humain exclusivement destiné à désigner l'embryon. Donc, garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Après, la grande question qui se pose aujourd'hui, le commencement de sa vie ou de la vie, parce qu'il y a aussi un jeu d'articles, ça a été changé, cet article-là, entre-temps. Est-ce qu'on parle de commencement de la vie? C'est à quel moment? Ou de sa vie? C'est à quel moment, en fait? Là, c'est la question aussi. C'est au moment de la fécondation? C'est au moment de l'anidation? C'est un moment d'information des organes, comme on a vu la dernière fois. Est-ce que c'est au moment de la naissance? Et ça, c'est aussi la question qui est floue également dans cet article 16. Donc, elle rejoint d'une part l'article 3 de droit européen, mais d'autre part, cet article reste flou par rapport à la question quand est-ce que commence la vie? C'est pas aussi clair. Vous voyez un petit peu, ça continue, l'ambiguïté continue. En fait, même, regardez, dans le code civil, c'était aussi une question que je vais aborder. On parle de la personnalité juridique, donc l'enfant peut être une personnalité juridique, alors que dans certains cas, si il est traité comme un sujet de droit, avec l'adage infans conceptus, vous savez, cet adage latin très important qui fait qu'on peut acquérir la personnalité juridique même avant la naissance. Et ça, c'est inscrit dans le Code civil, dans l'article 725, l'article 906, dans laquelle on présume voilà, que l'enfant est né déjà avant qu'il soit né. Et l'idée, c'est de cet enfant, infans conceptus, elle engendre un principe et une exception en même temps, en fait. C'est-à-dire, en principe, normalement, l'enfant n'acquiert la personne juridique qu'à partir du moment où il est né vivant et viable. C'est ce qu'on a dit. Mais l'exception, c'est qu'on peut le considérer déjà comme vivant et viable, en fait, ou comme personnalité juridique, mais si c'est dans son intérêt à lui. Et là, ça joue par exemple dans la question de l'héritage, des assurances de décès, par exemple. Vous voyez, un papa qui décède et son épouse elle est enceinte. En fait, un époux qui décède et son épouse est enceinte. Pour l'héritage, normalement, c'est qui va l'hériter, c'est son enfant qui va naître, qui n'est pas encore né. Bon, on recourt à cet adage pour établir cette possibilité d'hériter. Mais la question, c'est que l'héritage effectif sera appliqué une fois que l'enfant est né vivant et viable. On revient toujours à la même chose. Donc, d'une façon fictive, il est sujet de droit, mais effectivement, il faut attendre qu'il soit né vivant et viable. Donc, voyez un petit peu la contradiction, bah, je veux dire, la contradiction, des ambiguïtés dans ce sujet. Tout ça, dans le code civil, hein.
Oui, on n'en est que au code civil.
On est au code civil, tout à fait. Dans le code civil. Là, je pense que ça serait bien, on n'aura pas le temps de tout traiter. Ce sont les idées principales. Je pense que je vais passer au code pénal parce que aussi c'est intéressant de voir un petit peu dans le code pénal comment ça se passe. Parce que normalement, le code pénal, il est là pour protéger hein, normalement la vie contre les infractions, contre les homicides et bien d'autres. Ce qui est sûr, que dans le code pénal, pour parler d'un homicide, on parle des homicides volontaires ou involontaires, et on se pose la question, est-ce que les incriminations, ces incriminations, donc homicides volontaires ou involontaires, concernent l'enfant qui est non né? Disons, dans l'histoire un petit peu du code pénal, il y a plusieurs affaires. Plusieurs affaires qui ont eu lieu dans la jurisprudence récente. L'affaire de Metz, par exemple, il y a un accident en 1918. Hein, il y a un accident sur la route où la femme accouche prématurément et puis l'enfant est né suite et est né mort hein, suite à l'accident. Donc il y a eu un porte-plainte. Il y a l'affaire de Versailles. En l'an 2003, par exemple, c'était aussi lors d'un accident de la route, une mère enceinte de 8 mois est gravement blessée. Donc l'enfant, il est né le jour de l'accident, mais la mère après, mais il décède après 1 heure, hein, suite à des lésions donc dues au choc d'accident. Donc il y a eu aussi une plainte. Donc dans toutes ces questions, il y a pas mal de problématiques. Mais une affaire qui était très intéressante, c'est qu'on appelle l'affaire de Lyon. Dans cette affaire, c'était en 91. Donc, il y a eu un accident donc, à l'hôpital. Donc, un accident. Une madame qui s'appelle Tino Vo, elle est donc d'origine vietnamienne. Elle se présente à l'hôpital de l'Hôtel Dieu de Lyon le 27 novembre 91, hein, pour subir une visite médicale du sixième mois de grossesse. Et le même jour, il y a une autre femme qui se nomme Titan Van Vo. Donc l'autre se nomme Tino Vo, et la première donc, concernée, et la deuxième Titan Van Vo, qui venait pour se faire enlever un stérilet dans le même établissement. Il y a une confusion entre les deux. Le médecin a confondu les deux patientes. Il a procédé pour enlever le stérilet, mais sur la femme enceinte, ce qui a fait qu'il y a une rupture de la poche des os et il y a eu un avortement thérapeutique nécessaire. Donc l'enfant est décédé. Donc, cette femme, la Tinovo, la maman, elle a déposé, elle a porté plainte contre le médecin. Et il y a eu un jugement donc, le 13 mars 1997, avec la cour d'appel de Lyon, qui a infirmé le jugement du tribunal correctionnel en déclarant le médecin coupable d'homicide involontaire. Et on l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec 10 000 francs d'amende, soit 1 500 euros à peu près aujourd'hui. Donc c'était une des premières fois qu'on, pendant des affaires pareilles, on déclare un homicide involontaire. Hein. Toutefois, cette affaire de Lyon a été rejetée quelques années après, 2 ans après, en 1999, par la Cour de cassation. Et la dame aussi, elle a eu recours à la Cour européenne, notamment selon l'article aussi 2 de la non-violation de droit à la vie de la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne, ce qu'il s'est passé, elle n'a pas condamné la France par rapport à cette affaire, en affirmant qu'elle laisse le choix à chaque pays de gérer ses affaires selon leur propre droit. Donc, cette femme a perdu donc son procès et suite à cette affaire, après, de Madame Tinovo, c'était clair. Donc, tout ce qui concerne les accidents, tout ce qui concerne le quoi que ce soit en fait qui font perdre la vie de l'enfant, n'est pas suivi d'une façon pénale en tant que tel, en tant qu'homicide. On peut parler d'une faute professionnelle, oui, mais pas en tant qu'homicide. En d'autres, par ailleurs, on voit par exemple dans le livre 5, section 3 du Code pénal, il y a ce traitement plus ou moins digne des embryons. Quant aux les sanctions des trafics de l'embryon, on limite l'exploitation de l'embryon en interdisant les expérimentations et les études en dehors des conditions qui sont citées dans l'article L152-8 du Code de la santé publique. On parle des infractions, par exemple, quant au le fait de produire des embryons à des fins de recherche ou d'expérimentation ou à des fins industrielles et commerciales. Donc, vous voyez un petit peu deux poids, deux mesures. D'une part, si l'enfant à naître, il décède au moment de sa mère, il n'y a pas un homicide. D'autre part, on essaie de traiter avec un statut de dignité pour le protéger. Donc, également, dans le droit pénal aussi, il y a ces deux mesures de poids qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu dans le droit, il y a ça. Il ne faut pas oublier aussi le droit, dans le droit. Là, je passe du code civil, je passe à la loi bioéthique. Hein, il faut la citer, la loi bioéthique. Par exemple, dans l'article L2141-4, on parle de la conservation des embryons surnuméraires. Dans l'article L2151-5, on parle de la recherche sur l'embryon. Et tout ça c'est l'embryon qui a été traité comme un objet. Mais d'un autre côté, par exemple, dans l'article L2141-6, on parle de l'accueil d'embryons qui est permis aux couples stériles. Vous savez, donc, quand on fait une fécondation in vitro, un PMA, et s'il y a des embryons surnuméraires, chaque 5 ans, on pose la question aux parents, en fait, le couple d'origine, les parents, disons, qu'est-ce que vous voulez faire de vos embryons? Est-ce que vous les gardez pour un autre essai, pour la grossesse? Est-ce que vous voulez les donner à la recherche? Est-ce que vous voulez les donner, en fait, pour un autre couple stérile? Donc, l'article parle d'un accueil d'embryons. À qui on fait l'accueil? On n'accueille pas une table. On n'accueille pas un meuble, on n'accueille pas une voiture. L'accueil, c'est une caractéristique d'un être humain, d'une personne. Donc voilà, par là, il est traité de comme une personne, par exemple. Vous voyez? Voilà. Toujours pareil, il y a ce va-et-vient dans le droit d'une part on traite comme un objet, d'autre part on traite comme une personne, donc et ça crée des ambiguïtés. Quoi qu'il en soit, pour clôturer un petit peu cet article de droit, si vous voulez, quoi qu'il en soit, il est clair, un, qu'il n'y a pas un statut bien défini de l'enfant à naître dans le droit français, même peut-être ailleurs, hein, d'autres pays c'est pareil, il y a d'autres oui peut-être, il n'y a pas de statut clair. Deux, le fait de ne pas avoir un statut clair, ça crée de confusion et ça a des conséquences éthiques, bioéthiques et biojuridiques en même temps concernant l'enfant à naître. Il y a, comment s'appelle, le Claude Sureau, qui était président de l'Académie nationale de la médecine et qui était membre du comité consultatif de national d'éthique également, qui a proposé pourquoi ne pas faire un troisième, quand même, une troisième catégorie dans le droit. Au lieu de faire deux catégories, objet et sujet de droit, faire une troisième catégorie qui est propre à l'embryon, à l'enfant à naître. Et dans cette catégorie, on peut quand même faire là les législations qui est claire, un statut qui est clair par rapport à cet enfant à naître et qui permettra d'éviter toutes les confusions possibles et toutes les amalgames qui peuvent se créer à cause des confusions des notions et de traitements, et notamment aussi avec la jurisprudence, parce que chaque juge, hein, après, c'est lui qui interprète la loi, hein. Étant donné que rien n'est clair, ça revient aussi à la jurisprudence.
Oui, c'est une particularité du droit français qu'on peut retrouver bien sûr ailleurs, mais c'est que lorsqu'il y a un vide juridique au niveau de la loi, c'est le juge qui discerne par rapport aux principes fondamentaux du droit du pays ce qu'il y a lieu de décider. D'où notre droit français qui est basé également sur une importante jurisprudence.
Tout à fait, tout à fait. Mais je pense en Italie, c'est pareil. Mais en Italie, ils ont plus. Il y a quelques articles qui sont en fait plus clairs à ce sujet. Même au niveau de la Constitution, parce que dans la Constitution, ils sont intégrés en 2004, par exemple. Dans la Constitution, les articles, je pense, 4, les articles 32, qui concernent aussi la PMA. Et également, quand on parle de la PMA, donc ça inclut également la question de l'embryon. Et ça, c'est intégré dans la Constitution. Vous voyez, donc il y a cette protection constitutionnelle du droit à la vie. Et ce qui fait que voilà, ça change un petit peu la balance par rapport à la jurisprudence. Bon, après, là, vous savez, on ne critique pas, ce qui est sûr, on juste relève les faits qui existent déjà. Et les faits font que il y a quand même une certaine ambiguïté quand il s'agit des questions éthiques, quand le droit n'est pas clair. Ça, c'est une question très importante aujourd'hui. Quand le droit n'est pas clair, quand le droit ne peut pas décider d'une façon tranchée, d'une façon définitive sur des questions juridiques, ça crée une certaine ambiguïté au niveau de l'interprétation biojuridique et bioéthique. Et malheureusement, c'est ce qui fait aujourd'hui que le discours bioéthique il est un peu tendu. Voilà.
Alors, Bernard Roune, qu'en est-il du statut moral?
Alors, la question du statut moral aussi est compliquée, hein, comme le statut juridique, parce que chaque partie a son point de vue. Là, j'ai choisi de résumer en trois points essentiels. Les partisans qui veulent utiliser le statut en fait, le moral de l'embryon en distinguant entre pré-embryon et embryon, il y a cette question. Je parlerai également rapidement de statut moral de l'embryon selon le comité consultatif national d'éthique qui a adopté l'expression suivante, l'embryon comme personne potentielle. Et je parlerai également après de la question de statut moral de l'embryon sur la bioéthique personnaliste que nous adoptons nous-mêmes dans l'Église et même aussi dans quelques comités laïcs qui adoptent également la même position. Donc, la question de tout d'abord de pré-embryon-embryon. Donc, ça, c'est aussi important à savoir parce que cette distinction a été faite pour la première fois à Londres en 1985. Ou en diviser voilà, cette vie embryonnaire en deux parties dont je parle. Donc là, le pré-embryon, c'est avant le huitième jour, avant la nidation, et après, on parle de l'embryon. Pour quelles raisons on a fait cette distinction? Il y a un article qui était très intéressant, écrit par Philippe Oliviero, qui est un docteur en psychologie et qui a fait une étude sur ce sujet, dans l'article intitulé « La notion de pré-embryon dans la littérature politico-scientifique ». Imaginez-vous, politico-scientifique, c'est clair, hein? Et dans son article, il cite le rapport Palacios, qui était le rapporteur de la commission sciences et technologies de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et qui date de 1988. Dans ce rapport, pour parler d'embryon et pré-embryon, on a donné quelques arguments en faveur de cette distinction. Il y a à peu près 15 arguments. J'en cite quelques-uns. Sous trois catégories, si vous voulez. Il y a des arguments qui concernent la question numérique ou l'individualité. Rappelez-vous que la première émission que j'ai faite, j'ai parlé par exemple du problème de la gémellité. Quand il y a deux jumeaux, ça pose parfois des questions morales, mais comment est-ce que c'est deux individus, un seul individu? Et la question du chimérisme, les embryons chimères. Parce que ça peut arriver aussi dans des fécondations qu'il y ait des embryons chimères. Il y a aussi la question des annexes embryonnaires, parce que vous savez, dans le développement embryonnaire, à un moment donné, au début de voilà, les 7 ou 8 premiers jours jusqu'au 14e jour, il y a une partie des cellules, la primitive hein, embryonnaire, qui font se détacher pour former des annexes qu'on appelle les annexes embryonnaires, qui vont servir après de la placenta, de liquide amniotique, etc., etc. On se pose la question, est-ce qu'on peut dire que c'est l'embryon, c'est une seule entité ou pas? Donc, selon le rapport Palacios, non, ils disent non, parce que, étant donné qu'il y a une séparation entre deux catégories des cellules, numériquement, donc là, il faut distinguer entre pré-embryon et embryon. Après, ils ajoutent par exemple des arguments morphologiques en disant qu'avant l'apparition de la lignée primitive, il n'y a pas de système nerveux central, donc il n'y a pas de forme humaine après. Donc, on ne peut pas parler d'un embryon s'il n'y a pas de ces trois. La ligne primitive ou le système nerveux central et la forme humaine. Il y a aussi des arguments qui disent, étant donné que l'enfant est dépendant de sa mère, notamment pour la nidation et la gestation, au début, hein, c'est une dépendance essentielle, donc là, on ne peut pas parler d'un embryon, il faut parler d'un pré-embryon. Donc, Philippe Oliviero, en citant donc ce rapport de Palacios qui a fait donc, cette distinction entre les deux, une distinction anglaise, hein, il a critiqué également dans son rapport en disant, mais il a critiqué, il y a bien d'autres, ils ont critiqué également cette distinction en disant, d'une part, on veut avoir un pré-embryon pour avoir un droit pour le manipuler. Vous voyez un petit peu. Et on a droit de manipuler l'embryon parce que il est un pré-embryon. Là, c'est un jeu de mots d'ailleurs. Un jeu de mots qui est essentiel. C'est une docteure en droit quand même qui s'appelle aussi Emmanuelle Dante-Inard qui a fait une étude sur ce point en affirmant que aussi le jeu de mots, de jouer ces notions, distinguer ces notions, c'est juste pour faire une démarche utilitariste. Pur utilitariste pour profiter de ce qu'on veut. Et dans ce sens, on manipule donc les mots pour influencer le débat éthique. Alors que, j'ai dit la dernière fois, vous vous rappelez, il y a une certaine continuité dans le développement qui fait qu'il y a une seule entité. Même si ça change, mais il y a une seule entité, un développement qui est continu, qui garantit cette entité. Donc cette distinction pré-embryon-embryon, elle n'était pas adoptée en France. Le comité consultatif national d'éthique, donc là je passe au deuxième point, il a adopté une autre expression pour parler du statut d'embryon, c'est l'embryon comme personne potentielle. Et là c'était en 1984, déjà la première proposition. Et après, en 1988, ils ont fait une étude pour cette expression. Je cite leur argumentation. Pourquoi cette utilisation? D'une part, il y a dans cette notion embryon comme personne potentielle, il y a un certain respect qui est lié à la conception propre de l'embryon, qui est lié à sa dignité de personne et non pas au désir des parents. N'oubliez pas que la question du désir des parents, c'est une question essentielle aujourd'hui quand on parle du projet parental. Et malheureusement, là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Emmanuel Dante-Hinard, dans son livre aussi, qui était une partie de sa thèse, dit quand même, on a créé deux statuts différents d'un embryon. Un embryon, en fait, parce qu'il y a deux natures différentes. L'embryon in vivo, celle qui est dans le ventre de sa mère, et l'embryon in vitro, qu'on fait pour la PMA, qui ont fécondé avec fécondation artificielle à l'extérieur. Et dans ce livre, elle dit, mais c'est pas possible que les embryons in vitro ont plus parfois de droits que l'embryon in vivo. Et le comité national d'éthique, en utilisant l'embryon personne potentiel, doit être appliqué sur ces deux catégories des embryons in vivo et in vitro. Quoi qu'il en soit, l'embryon reste un embryon qui est une personne potentielle. Il n'est pas, ils disent aussi, il ne doit pas être considéré pour ce qu'il est maintenant, mais aussi pour ce qu'il sera. Et ils affirment également dans le comité que l'embryon est une personne potentielle en vertu de son génome humain. Rappelez-vous la première émission également, quand on a parlé que du génome humain, ça garantit quand même cette appartenance à l'espèce humaine et ça affirme aussi que l'embryon est un être humain. Et puis la question de potentialité, quand on parle de la potentialité, en métaphysique, il y a cette possibilité d'avoir une puissance qui va être actualisée dans le temps. Donc cet être humain, il va être devenir une personne. Donc, si le processus n'est pas interrompu, il va devenir une personne. C'est pourquoi on l'appelle embryon comme personne potentielle. Donc, tout ceci, en fait, au niveau de comité de conseil national d'éthique, c'est pour, voilà, un petit peu garantir un certain respect par rapport à l'embryon. Et par rapport aussi aux recherches qui peuvent se faire pour l'embryon. Pour nous, par exemple, la bioéthique personnaliste, en plus des arguments qui ont été cités par le comité d'éthique, en plus de tout ce que j'ai cité bien avant aussi la fois dernière par rapport au statut biologique de l'embryon. Dans la bioéthique personnaliste, et c'est ça en fait notre point fondamental, on dit que peu importe le stade, peu importe la morphologie, peu importe tout ce qu'on a cité, ce qui intéresse aujourd'hui, c'est que cet être humain a une dignité propre. Et cette dignité, elle lui est fondamentale. Elle appartient aussi à son statut ontologique, parce que c'est un être humain qui est unique. Et de fait, de cette dignité, on lui doit un respect. D'ailleurs, dans l'Église n'a jamais, jusqu'à présent, a prononcé définitivement sur le statut d'embryon comme personne. Et même, ni la philosophie, ni l'embryologie, et même le droit n'ont pas encore aussi eu cette possibilité de décider si l'embryon peut être qualifié de personne. Mais l'Église affirme que l'embryon doit être traité comme personne dès sa conception. Ça, on peut lire dans Donum Vitae, le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, 1987. Donc, imaginez-vous, il y a quand même bien 34 ans sur ce document. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que peu importe les points de vue différents, peu importe la question médicale et biologique du développement, peu importe ce que dit le droit, aujourd'hui, on est face à un être humain. Et cet être humain, il porte en lui une marque essentielle, c'est sa dignité, du fait de son appartenance à l'espèce humaine. Et étant donné qu'il appartient à l'espèce humaine, il doit être traité comme si c'était une personne, parce que seul le temps, d'ailleurs, peut lui donner cette possibilité de devenir une personne. Mais si on ne le traite pas, on ne lui donne pas cette possibilité de devenir une personne, il ne deviendra pas. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ça. On ne donne plus cette possibilité. Il n'y a pas cette possibilité quand même de laisser l'embryon se développer pour s'être actualisé, si on va parler des termes métaphysiques, entre puissance et acte. Voilà des notions rapides aujourd'hui, Sandra, mais pour rentrer dans les thèmes, c'est un peu compliqué. On n'a pas le temps. J'espère que vous avez eu quelques réponses aux questions que vous avez, je ne sais pas.
Alors, je pense que ça a bien éclairé nos auditeurs. Bien sûr, donc, ce sont des questions complexes qu'il faudrait creuser davantage, point par point. Mais en tout cas, merci beaucoup, Père Maroun, pour donc ce travail de résumé que vous avez fait aujourd'hui sur des questions aussi complexes.
Merci à vous, Sandra, et à la prochaine.
Merci, à bientôt, au revoir.